Actu SF, les podcasts.
Je vous remercie d'être là et je remercie les organisateurs des Utopiales de me proposer une tribune dans ce festival. Moi, en fait, je suis. Donc, la présentation que je vais vous faire, elle s'appelle Homme réparé, homme augmenté. Et moi, en fait, je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire de robotique qui est lié à une université à Paris, Sorbonne Université, anciennement Jussieu. Et j'appartiens à une équipe qui s'appelle Agathe, pour assistance aux gestes et applications thérapeutiques. Concrètement, on fait de la robotique médicale, c'est-à-dire on essaie d'assister le geste, que ce soit un geste expert, par exemple assister un chirurgien qui fait une opération de chirurgie mini-invasive pendant 7 heures qui fatigue, mais aussi assister le geste pathologique, c'est-à-dire celui d'un patient qui a, suite à un AVC, une amputation, perdu des capacités d'action. Donc moi, mon activité, elle est plus sur le deuxième volet. Ma spécialité, c'est l'interaction physique comme robot pour la rééducation neuromotrice et l'assistance aux membres supérieurs. Donc concrètement, ça revient à développer des dispositifs, des prothèses, des exosquelettes, et surtout, en fait, donc là, vous avez en bas les gens avec qui je travaille, notamment une chercheuse en neurosciences, Agnès Rohurami, et puis différents doctorants que j'encadre. L'idée, c'est que plus que de développer du matériel, on essaie de mieux comprendre comment notre cerveau pilote notre corps, on va dire, et se servir de cette compréhension pour améliorer l'interaction entre la machine et l'homme, principalement arriver à donner du contrôle à un patient sur un exosquelette ou sur une prothèse. On est vraiment sur des aspects de commande, de ressenti, de ces choses-là. Alors, finalement, moi, je répare l'homme, mais quand on voit le thème du festival, on pourrait penser que là, on est dans une période où la science-fiction se rapproche de plus en plus, enfin, la réalité se rapproche de plus en plus de la science-fiction, et le thème de ce festival, qui est le corps, soulève vraiment la question un peu de on en est où, qu'est-ce qu'on sait faire réellement, à quel point on est loin de l'imaginaire des productions de SF. Et on pourrait penser que c'est une ère à venir, en fait, l'ère de l'homme augmenté, de l'homme réparé. En fait, à ma connaissance, et le but de ce que je vais vous montrer, c'est qu'on on est très peu avancé, on est simplement à l'ère de l'homme réparé, mais que par contre, la considération de notre capacité d'action sur le corps et de notre perception du corps a déjà beaucoup changé. En fait, on est dans une ère assez particulière pour le corps, avec une grosse évolution des pratiques médicales. Notamment, il y a des utopies sur le corps. Le fait que, ça y est, peut-être la nouvelle richesse, c'est même plus peut-être la connaissance ou l'argent, c'est la santé. Et donc, il y a un certain nombre d'auteurs en fait, qui ont défini ce concept-là de la santé parfaite, de cette espèce de... L'algénie, c'est un mot valise, comme sur l'alchimie, mais pour décrire en fait, cette nouvelle quête d'une immortalité, d'une santé parfaite, etc. Et puis, bon, le transhumanisme ou les idéologies transhumanistes, je reviendrai un peu là-dessus aussi, poussent vraiment notre l'idée qu'on pourrait agir, on pourrait transformer, on aurait des capacités à modifier, réparer, améliorer ce corps-là. Ça, c'est aussi, en fait, c'est un mouvement qui est ancien, cette nouvelle ère du corps, notamment avec la perception qu'on a, la définition de la santé. Quand on regarde la définition qui est vieille de l'Organisation mondiale de la santé en 1946, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social, et pas seulement une absence de maladie, d'infirmité. Et en fait, en faisant rentrer le concept de bien-être, on ouvre la porte à tout un tas de pratiques qui ne sont plus des pratiques thérapeutiques, mais qui font quand même partie de la santé. À l'heure actuelle, on reconnaît, je crois que ça a été récemment reconnu, que le célibat, par exemple, est quelque chose de nuisible pour la santé. Donc, en fait, la notion de bien-être ouvre la porte à beaucoup de choses. Notamment, elle ouvre la porte à une évolution de la médecine vers ce qu'on appelle l'anthropotechnie. Alors, c'est un nom que plusieurs auteurs ont défini, notamment Jérôme Goffet, qui est un philosophe à Lyon, qui travaille beaucoup là-dessus. L'anthropotechnie, ce sont des pratiques médicales à visée non thérapeutique, à visée de bien-être. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer, d'augmenter, par exemple, ça peut être d'augmenter des sens existants, de développer de nouveaux sens, d'augmenter des capacités physiques, cognitives, d'allonger la durée de la vie. Comme ça, ça paraît, on pourrait voir le programme transhumaniste, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, ça peut être plus fin que ça. C'est simplement ce qui fait évoluer la relation patient-médecin vers celle de client-praticien, avec une redéfinition un peu de la normalité, c'est-à-dire que, on pourrait penser qu'on est loin de l'anthropotechnie, mais à l'heure actuelle, quand on regarde dans nos sociétés, il y a déjà un certain nombre de pratiques qui ne visent pas à procurer du soin thérapeutique, mais améliorer le bien-être, le confort, voire psychologique. La pilule contraceptive, la chirurgie esthétique non réparatrice, le dopage à plusieurs niveaux, qu'ils soient cognitifs ou physiques, est plus ou moins reconnu. Le dopage, c'est à part, mais les autres sont des pratiques reconnues, légitimes, acceptées par notre société, et qui sont déjà de l'ordre de... Elles ne vous sauvent pas la vie. Par contre, elles améliorent votre condition de vie. Elles sont déjà de l'ordre de l'anthropotechnique. Donc, ça montre bien... Oui, je vous en prie. Ben, c'est-à-dire que, en fait, vous n'êtes plus dans une relation avec votre médecin sur le fait que c'est un acte remboursé par la sécurité sociale qui vise à vous soigner. C'est plus du soin, c'est une pratique, c'est un service, on va dire, que vous rend le médecin, qui n'est pas pris en charge par une assurance maladie, par une sécurité sociale et ce genre de choses-là. Donc on sort en fait un peu du contexte de la prise en charge, du service public, de l'accès aux soins, de ces choses-là. On va vers ce qui se passe à l'heure actuelle avec les cliniques privées de chirurgie esthétique, par exemple. Et donc, c'est important d'observer que finalement, cette notion d'amélioration, d'augmentation, la frontière, elle n'est pas franche. C'est-à-dire que selon les normes sociales, les codes, la perception culturelle d'une société... je veux dire, se faire refaire les fesses pour un homme, ça peut être considéré comme de l'augmentation de l'amélioration, alors que dans d'autres sociétés, comme par exemple au Brésil ou au Liban, où les chirurgies esthétiques sont très très répandues, ça peut être quelque chose de quasiment normal, voire de standard, pour accéder à un certain bien-être physique, mental et social. Donc, au-delà des évolutions des pratiques médicales, il y a un imaginaire du corps hybride qui est de plus en plus fort. Alors cet imaginaire du corps, il a été beaucoup véhiculé par la science-fiction, vous avez tout un tas d'exemples de documentaires dont certains vont être passés là, et de films et de productions animées. Des mythes forts, celui du cyborg, l'alliage entre le corps et la technologie, cette espèce d'être hybride. Le mythe de la transcendance, cette capacité qu'aurait l'homme, via la technique, à dépasser sa condition humaine, biologique. La mythologie prométhéenne qui colle un peu à tous les chercheurs, médecins de ce domaine-là, de vouloir jouer à Dieu, en fait, par la technologie, par la connaissance, le savoir, d'être capable de réparer, de procréer sans l'humain, de bypasser la nature. Et en fait, cet imaginaire du corps, qui est très présent en science-fiction, il est en un sens légitimé par la surreprésentation dans les médias de certaines figures, de gens qu'on va appeler des monstres, au sens de Foucault, c'est-à-dire c'est des gens incatégorisables, des gens comme Oscar Pistorius, ou Hugh Hare, Memelins, donc Oscar Pistorius, bi-amputé de jambes, et en même temps champion athlétique, et Memelins, bi-amputé de jambes et mannequin international. Hugh Hare, c'est aussi un bi-amputé de jambes qui a perdu ses jambes pendant son adolescence en gravissant un mont où ses jambes ont gelé. C'était un des espoirs de l'alpinisme américain. Et depuis, il est directeur du laboratoire du MIT, le Media Lab, et c'est une figure de la recherche extrêmement importante. Ces gens-là, où Libo, c'est un des premiers, on en parlera un peu après, un des premiers Américains à avoir reçu une chirurgie particulière pour de regroupage nerveux. Ces gens-là, ils sont très présentés, très montrés, alors que finalement, ils ne sont pas du tout représentatifs du patient amputé lambda. Et cette surpontation, elle génère et de la fascination et aussi un peu de simplification parce que, je veux dire, tous les patients amputés ne sont pas des êtres hors normes capables de compenser leur handicap par un talent à côté de ça. Mais en un sens... Ces gens-là sont presque des surhommes, et eux, ils légitiment un peu l'imaginaire de la science-fiction de ces personnes-là qu'on pourrait réparer. Alors, j'ai parlé avant du transhumanisme. En fait, je suis assez contre l'idée de parler du transhumanisme ou d'un transhumanisme, parce que c'est un ensemble d'idéologies avec des courants très différents, mais historiquement, on peut considérer que c'est un mouvement intellectuel qui date des années 80, et qui prône en gros l'utilisation des technologies pour améliorer les caractéristiques de l'espèce humaine. C'était ça la base dans la fameuse FAQ, de définition du courant du mouvement transhumaniste, du World Transhumanist Act, ce qui avait été défini. Donc l'idée, c'est que l'homme, à l'heure actuelle, dans son niveau biologique, n'est pas arrivé au bout de son évolution. On peut aller plus loin, et on peut surtout prendre la main avec les techniques pour piloter l'évolution future de l'homme. Donc l'idéologie transhumaniste considère que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement, tout ça, sont des choses inutiles et indésirables. Et son but, c'est d'utiliser les fameuses Human Enhancement Technology, donc les fameuses technologies convergentes, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, la médecine, mais tout l'IA, etc., pour les NBIC, comme on les appelait, pour essayer de prendre le pas sur notre condition d'humain mortel. Alors, il y a eu tout un tas d'idéologues qui vont de gens qui venaient plutôt de performances artistiques jusqu'à des gens qui sont des bioéthiciens, voire des investisseurs assez célèbres comme Max Tegmark ou Nick Bostrom, qui est un bioéthicien, un philosophe, qui sont des gens en fait qui ont une réflexion assez poussée. Et il y a un centre d'institutions rattaché à ces idéologies. Mais ce qui est important de saisir, c'est peut-être la seule chose, c'est que ces idéologies, elles évoluent. La notion d'enhancement, de réflexion sur l'homme augmenté, elle est assez dépassée. C'est des concepts, il y avait un buzz dans les années 2003 autour de ça, il y a eu plusieurs rapports, etc. Mais depuis, en fait, les idéologies transhumanistes s'intéressent beaucoup plus à la réflexion sur le risque existentiel. C'est-à-dire plutôt réfléchir à tout ce qui pourrait nuire à la survie de notre espèce. Le développement d'une IA forte, quand vous voyez une pétition d'Elon Musk sur le danger des IA fortes, derrière, en fait, ça émane de Future of Life, des Oxford Center for Neuroethics, de ces idéologies-là, des réflexions sur l'écologie. Le risque existentiel, en fait, c'est tout ce qui pourrait nuire à notre espèce. Là, vous avez une phase de classification, on ne la voit pas trop, mais donc avec une réflexion sur l'avenir de la planète, sur coloniser d'autres planètes. C'est pour ça qu'en fait, on parle plus de ça à l'heure actuelle que du concept d'homme augmenté, qui est un peu outdated. Donc, encore une fois, à l'heure actuelle, une petite parenthèse, c'est que le transhumanisme tel qu'il a été défini un peu grossièrement, comme il y aurait les transhumanistes et les bioconservateurs, ça n'existe pas, ou ça n'a jamais vraiment existé. C'est-à-dire que la plupart des penseurs que j'ai listés avant, ils se revendiquent eux-mêmes pas vraiment forcément transhumanistes, ils posent des questions. Et puis, il faut les courants, même les organismes que j'ai montrés précédemment, ils évoluent beaucoup plus vers une réflexion sur l'usage des technologies plutôt que de prôner les technologies. Alors, c'est un peu insidieux, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus respectable de dire « on réfléchit à une bonne utilisation éthique des technologies pour, entre guillemets, cacher un discours qui quand même prône un peu, beaucoup, l'utilisation des technologies ». Mais malgré tout, il y a une multiplicité de courants dans ces idéologies. Il y a des transhumanistes, des post-humanistes. Il y a plein de points de philosophie dure, de la philosophie de la technique, de la philosophie de l'esprit, des philosophies politiques sur lesquelles ils ne s'entendent pas. Et si ces questions vous intéressent, vraiment, je vous engage à regarder la définition qui a été donnée du transhumanisme par un philosophe français qui s'appelle Jérôme Goffi. Dans l'encyclopédie philosophique, c'est assez dense, mais ça donne un bon état de l'art de à quel point le mouvement est multiple, le courant est multiple. On ne peut pas les caricaturer comme les méchants qui veulent uploader leur conscience sur Internet. C'est beaucoup plus subtil que ça. Oui ? Alors le biolibéralisme, en fait, c'est un courant qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'en général, par exemple sur la question du corps, les transhumanistes pensent qu'on va vers une évolution, il y a une évolution par rapport à notre état actuel. Les post-humanistes veulent faire une rupture complète avec notre corps. Les biolibéraux, c'est une espèce de courant intermédiaire qui sont entre le transhumanisme et des bioconservateurs, qui sont des progressistes, qui considèrent qu'on ne doit pas bloquer toutes les recherches, toutes les pratiques d'amélioration de l'humain ou de repousser le vieillissement ou de prendre du clonage, etc., mais qu'il faut les encadrer. Donc c'est une espèce de posture intermédiaire qui s'apparenterait, j'aurais pas dû le mettre là, c'est plutôt une vision technoprogressiste. Par exemple, pour ceux qui connaissent, en France, l'Association française de transhumanisme, l'AFT, qui est le courant français, lui revendique une vision intermédiaire qui est beaucoup plus modérée, qui est technoprogressiste, donc qui sous-entend qu'il y a progrès que s'il est accessible à tous et qui va à l'opposé de certaines visions post-humanistes très dures où, en fait, c'est très individuel. Voilà, je ne suis pas un spécialiste de ça, c'est pour ça que je vous engage à fouiller. Puis je pense qu'il y a un certain nombre de tables rondes qui ont évoqué ce sujet-là. Mais c'est important, en fait, de parler d'eux parce que, en fait, les idéologies qu'ils promeuvent, elles tendent à accentuer vraiment l'idée que l'homme peut prendre la main sur son évolution et peut modifier son corps et qu'on avance vers cette espèce de singularité, cette espèce de date qui est plus ou moins fluctuante sur le moment où on aurait une rupture d'innovation technologique, on serait capable de faire des choses incroyables, notamment grâce à l'IA, mais par plein de moyens, que ce soit l'IA, les organes artificiels, la médecine, la génétique, tout ça pourrait participer à une capacité à modifier notre corps et à reprendre la main là-dessus. Pourtant, en fait, quand on regarde à l'heure actuelle les technologies pour réparer et augmenter l'homme, on voit qu'il y a eu plein d'avancées médicales, chirurgicales. Je veux dire, ces dernières années, du point de vue de thérapie génique, on vit quand même une ère où il y a une nouvelle méthode, les fameuses méthodes dites CRISPR, Cas9, qui sont des ciseaux génétiques qui permettent de faire de l'ingénierie génétique comme jamais ça a été fait avant. On a des améliorations de la chirurgie esthétique réparatrice des avancées en laparoscopie, en utilisation de rayons qui sont fantastiques. De la même façon, du point de vue technologique, ça c'est pas récent, mais on bénéficie tous de dispositifs de correction simples. Les lunettes, les aides auditives, les cannes, les corsets, ce sont les premières, on va dire, prothèses, les premières réparations du corps. Elles sont fonctionnelles. Et même sur les implants de régulation végétative, on a fait des progrès énormes. Les pacemakers, les défibrillateurs automatiques, les pompes à insuline qui commencent à être certaines implantées et puis régulées. Les progrès du cœur artificiel qui peuvent paraître bien modestes, mais qui sont fantastiques parce que le cœur artificiel, c'est quand même un objet qui mélange la technologie et la biologie. On reviendra peut-être rapidement dessus, mais qui est assez incroyable. Et puis, il y a toujours dans l'idée des gens, tout la robotique, tout ce qu'elle aide à faire pour réparer l'humain, les exosquelettes, les prothèses, les BCI, les Brain Computer Interface, donc les interfaces cerveau-machine, qui, en fait, finalement, sont très souvent citées, alors qu'au fond, autour de vous, je ne sais pas, même moi, étant chercheur, je connais assez peu de gens qui peuvent clamer être réparés par la robotique. Et donc... Le but de ma présentation, c'est un peu de voir c'est quoi la réalité de l'homme augmenté, voire même sans aller jusque-là, parce que vous avez bien imaginé quel est mon point de vue, c'est que est-ce qu'on peut déjà avoir un homme réparé correct, un homme réparé peut-être amélioré et augmenté sur certains points. Et entre la figure de science-fiction, la figure médiatique et puis le patient qui peut des fois aussi jouer un peu ce rôle d'homme augmenté, on verra ça sur la fin. Où on en est. Donc je vais prendre un certain nombre de technologies robotiques, celles que j'ai listées avant, les exosquelettes, les prothèses, pour vous dire un peu où on en est, comment ça marche vraiment, et vous donner quelques clés pour avoir une espèce de manière de percevoir de façon critique la recherche, l'état actuel de ces technologies, et peut-être de voir un peu plus clair dans le discours médiatique qui est souvent un peu simplifié. Donc pour les exosquelettes, par exemple, je suis désolé, je vais couper le son parce que c'est des pubs d'exosquelettes, mais l'objet technologique pour l'exosquelette existe. Il existe hors du laboratoire, et ça c'est assez fantastique quand même par rapport à plein de choses que je vais vous montrer par la suite, qui buzzent, mais concrètement qui sont à 20 ans d'être accessibles aux patients. Il y a des exosquelettes qui sont dispo pour différentes applications. Il y a un truc qui n'est pas marqué là-dessus, mais il faut vraiment garder l'idée qu'un exosquelette c'est un besoin. Il n'y a pas d'exosquelette polyvalent. L'exosquelette qui fait G.I. Joe, qui aide une personne tétraplégique et qui fait de la rééducation, ça n'existe pas. On sait faire à peu près des choses parce qu'on se focalise sur une application et l'objet qui sert à une application, on arrive grossièrement à faire un dispositif qui marche à peu près pour cette application, mais en aucun cas il est adapté à d'autres tâches. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui commencent à être disponibles sur le marché, pas pris en charge par la sécurité sociale, mais pour l'assistance à la marche des patients paraplégiques. C'est les dispositifs qu'on voit là. Donc c'est des systèmes pour des gens qui sont blessés médulaires, qui ont perdu le contrôle de leurs jambes. Et l'idée, en fait, c'est de leur permettre, non pas de remplacer le fauteuil roulant, mais de se mettre debout à certains moments de la journée, se verticaliser. Ça a des effets sur la psychologie qui sont monstrueux et sur le transit intestinal et sur la circulation sanguine qui sont énormes. Et c'est un des problèmes principaux de ces patients-là. Donc on a, par exemple, le ReWalk israélien ou le Rex. Donc le ReWalk, en fait, concrètement, c'est une machine à vous faire bouger les jambes. Votre équilibre est garanti par des béquilles. Le Rex, c'est quand vous avez une attente médulaire trop haute, donc vous avez trop peu de force au niveau du tronc et des bras. Et donc, en fait, le Rex, il gère aussi votre équilibre latéral. Bon, concrètement, ça paraît le futur, hein, mais comment ça marche un exosquelette comme ça? Vous avez une montre qui est sur votre bras là. Vous allez sélectionner, on va vous attacher dans l'exosquelette. Vous êtes assis, vous allez sélectionner se mettre debout. Dès que vous inclinez le tronc, ça va vous mettre debout. Donc là, vous équilibrez après avec vos béquilles. Puis là, c'est pas très malin, mais vous lâchez une main pour mettre mode marche sur la montre. Et quand vous pliez, l'exosquelette, en fait, il joue un cycle de marche qui a été prédéfini par le thérapeute. Et puis quand vous relevez, ça s'arrête. Voilà ce que c'est. Et puis il y a un mode marche pour monter les escaliers, mais c'est marche par marche, il faut faire un truc. Voilà ce que c'est qu'un exosquelette. C'est pas grand-chose, mais ça fournit une réponse à un besoin réel. Et alors le Rex, vous vous pilotez en fait par un petit joystick qui est sur le niveau de cette poignée. Et le Rex, en fait, il gère votre équilibre. Mais pour vous donner, cette structure, elle pèse 60 kg et elle se déplace à environ, 30 cm par minute. C'est extrêmement lent. C'est de la marche quasi statique, donc c'est encore peu utilisable. On est sur des structures qui coûtent entre 50 et 100 000 euros. Un jour, peut-être qu'elles seront remboursées. Elles commencent à être exploitées par des centres cliniques, par exemple en Bretagne, à Carpap, pour des stages, pour des patients. Alors l'autre, les types de vidéos qui étaient apparues, ça c'est pour vous montrer les autres dispositifs qui sont disponibles médicalement, ce sont les exosquelettes dits de rééducation. Et un exosquelette de rééducation, c'est très loin d'un exosquelette de science-fiction, ça ressemble plus à une machine de kiné. Donc là vous avez le leader mondial, c'est un leader suisse, c'est Locoma, qui vend deux plateformes. Le Locomat, c'est une plateforme, ça remplace les deux kinés qui étaient allongés par terre avec le patient entre deux parallèles pour faire de la rééducation des premiers pas. Donc vous avez un exosquelette de jambe sur un tapis roulant avec un harnais qui compense le poids. Et pour la rééducation du bras, une espèce d'énorme joystick à retour d'effort qui prend votre bras et qui peut agir au niveau articulaire. Et vous pouvez faire des jeux. C'est plus motivant et c'est plus intense qu'une thérapie classique. Mais à l'heure actuelle, la recherche montre qu'une thérapie avec robot, une thérapie classique, obtiennent les mêmes résultats. Il n'y a pas de mieux. Disons que simplement, on commence à avoir une pénurie de kinésithérapeutes et que ce genre de dispositif pourrait être des outils intéressants pour garantir l'accès aux soins pour les patients, parce que le nombre de gens qui ont besoin de ce genre de rééducation neuro, neuro-rééducation explose à cause des AVC, à cause de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un premier dispositif qui existe. L'autre dispositif qui commence à apparaître, c'est celui non pas pour un homme augmenté, mais pour un homme assisté. L'idée, c'est de fournir de l'assistance physique à opérateurs sains dans des contextes industriels. Et donc là, l'idée, c'est de limiter la pénibilité du travail. Ce n'est pas tant d'augmenter que de préserver les capacités de fatigue, d'effort, d'ouvrier. Alors par exemple, ça, c'est un exosquelette très simple qui est commercialisé par Lockheed Martin, un équipementier militaire américain. Et en fait, c'est un exosquelette passif. Ça s'apparente à, pour ceux qui savent ce que c'est un costume de Steadicam pour les opérateurs de caméra. C'est un système de bras à ressort, c'est un système de balancier. Concrètement, la personne ne porte pas le poids de la meuleuse dans ses bras. Elle a un système de parallélogramme à ressort qui reprend le poids de la meuleuse. Concrètement, le poids là est repris par ce bras, puis reprojeté au sol, ce qui fait que vous manipulez une charge un peu moins lourde et ça peut limiter les troubles musculo-squelettiques. Les études récentes, elles semblent montrer que, certes, vous limitez les troubles musculo-squelettiques des muscles qui supportaient le poids de la meuleuse, mais vous risquez d'en générer sur d'autres parce que le robot n'est pas forcément facile à manipuler. Il y a eu des tentatives, alors ça c'est une boîte auxerroise qui s'appelle RB3D et qui a fait des tests sur un exosquelette de jambe pour assister au tiré de râteau sur les ouvriers en BTP quand on pose du goudron, qui est une tâche extrêmement pénible. C'est des tentatives. Il y a plein aux États-Unis, il y a plein d'équipementiers qui commencent à équiper certains opérateurs sur des chaînes de production de systèmes de ce type-là. Il n'y a pas encore d'études qui montrent que c'est un vrai bénéfice. On ne sait pas trop où on va. Et en France, l'Institut national de recherche en sécurité, l'INRS, émet des doutes plutôt importants sur ce que ça peut vraiment fournir. Mais voilà, c'est les deux cadres dans lesquels on a des objets qui commencent à sortir du laboratoire et à être dispo pour les gens. Le souci en fait de ces exosquelettes-là, c'est que au fond, même si le matériel est là, donc on a fait sauter des verrous technologiques, il y a des verrous scientifiques très importants qui sont présents sur le partage du contrôle. Là, on donne du contrôle à la personne en faisant « je me penche, je me relève » ou « je me pilote par un joystick ». Là, on essaie de faire... Là, la machine, elle pilote les membres, donc il n'y a pas de partage de contrôle. Là, on est dans des cas quand même plus compliqués, celui d'assister une personne âgée, celui d'assister une personne avec des troubles ou un opérateur. Il faut comprendre ce que veut faire la personne, pas l'entraver, l'assister, voire l'augmenter à certains moments en étant sûr qu'on va bien dans le sens de ce qu'elle veut faire. Et ça en fait, c'est un verrou parce qu'à l'heure actuelle, ça demanderait de bien comprendre comment notre contrôle moteur marche. Et ça, on est un peu dans les choux. Et donc, c'est pas tout de suite qu'on va résoudre ce genre de problème-là. Et il faut garder à l'esprit que l'exosquelette, ça paraît le futur. Mais ça, c'est un exosquelette d'assistance à la marche des paraplégiques. En 1969, en Serbie, au Mihajlo Pupin Institute. Donc, concrètement, l'exosquelette, c'est un objet vieux, c'est un concept vieux. Certes, là, c'était pneumatique, on avait un ombilical avec un PC qui devait être grand comme la salle pour faire 3 calculs. Maintenant, on embarque tout, on a des batteries lithium, on a un smartphone, etc. Mais le concept en soi, il n'a pas beaucoup évolué. Et pour plein d'objets, souvent, c'est intéressant de regarder un peu l'histoire des techniques parce qu'on croit être on croit être moderne, on croit être innovant et on évolue assez peu rapidement, finalement. Alors là, je vais parler des prothèses. C'est l'autre objet un peu qui est un de mes objets de recherche, donc je vais être un peu plus précis là-dessus. Je vais faire quelques catégories pour montrer qu'est-ce qui existe vraiment pour les patients en membre inf, en membre sup, et puis vous montrer un peu là où la recherche cherche à améliorer les dispositifs actuels. Donc pour le membre inférieur, en fait, les technologies elles sont assez avancées. On va trouver des dispositifs, par exemple, qui équipent les patients, qui sont des genoux diamicroprocesseurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prothèses de membre inférieur sont des dispositifs qui marchent assez bien parce que ce sont des dispositifs qui sont autonomes. Ils sont des systèmes réactifs intelligents qui réagissent à ce que vous faites, mais sur lesquels vous n'avez pas directement le contrôle. Un patient équipé d'un genou à microprocesseur ou d'une cheville à microprocesseur, il ne peut pas plier le genou, bouger sa cheville. Il a juste un dispositif qui réagit à ce qu'il fait, adapte en fait les paramètres de raideur, de blocage de son genou, de sa cheville, donc en fonction de l'allure, des mouvements des hanches, du terrain. Et donc automatiquement, le genou va se balancer, faire une phase d'appui, verrouiller, voire être plus ou moins rigide, en s'adaptant à l'activité de la personne. Mais la personne, en dehors de bouger peut-être son corps d'une certaine façon, n'a pas d'autre contrôle sur le dispositif. Et en fait, faire un dispositif autonome seul, faire un dispositif robotique, on sait faire. Le problème, vraiment, c'est toujours quand on doit donner du contrôle à un humain sur le système, comprendre ce que l'humain veut faire, etc. Là, on a des soucis. Dans ces cas-là, on a des systèmes qui, comme ils n'ont pas besoin de vraiment partager le contrôle avec un humain, ils sont autonomes, ils sont réglés, ils ont des capteurs à l'intérieur, et ils ont des lois qui leur disent, quand ça se coupe par là, c'est qu'on est dans telle phase de l'appui, quand le moignon se lève vers l'avant, c'est qu'il faut laisser aller le genou, et puis ensuite, quand ça va taper, il faudra reverrouiller le genou. Ça, on sait faire, et donc il y a des dispositifs qui sont remboursés par la Sécu, qui sont assez efficaces, et qui permettent à une personne de marcher avec des genoux comme ça, ou avec un pantalon, si la personne n'est pas trop fatiguée, vous ne voyez pas vraiment la différence sur de la marche. Sinon, en fait, l'autre chose, donc vous avez les genoux qui sont assez avancés, pour les chevilles, c'est un peu moins beau, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, voilà un exemple d'un catalogue d'un grand fabricant de chevilles. Concrètement, pour les différentes activités, notamment pour les différentes allures que vous allez avoir pendant vos marches ou vos activités, vous allez avoir différents matériels. Vous avez des pieds de marche lentes jusqu'à des lames de course carbone. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de prothèse qui satisfasse la totalité de ces besoins. De même, quand vous voulez aller nager, pas mal de ces prothèses-là, elles ne résistent pas à l'eau, ou jusqu'à peu, les genoux ne résistaient pas, il fallait une prothèse de nage, il fallait une prothèse de grimpe, il fallait une prothèse pour le vélo, il fallait une prothèse, voilà. Donc, on sait faire des choses, mais encore une fois, on sait faire des choses très ponctuelles. Pour les chevilles, ça évolue un tout petit peu, alors c'était la vidéo qui était là, mais il commence à y avoir des chevilles dites intelligentes, de ce même principe, qui au lieu d'être une simple lame de matériel déformable comme du carbone ou autre, on va avoir un mécanisme électromécanique qui va pouvoir ajuster la raideur de la cheville et par exemple sur des tâches comme monter les escaliers, être beaucoup plus naturel. Concrètement, là, grossièrement, ces chevilles-là, c'est des ressorts. Vous appuyez et ça repart. Concrètement, quand vous marchez, vous avez la capacité de tendre votre cheville, de stocker un peu l'énergie et de la relâcher un peu plus tard, ce que ne peut pas faire une lame ressort. Et ces chevilles-là, elles permettent de faire ça. Et pour la marche d'escalier, c'est pas le même moment où vous devez stocker l'énergie, vous devez la relâcher. Donc, quand on le voit sur la vidéo, quelqu'un qui est équipé de ce genre de cheville-là est un peu plus efficace, perd moins d'énergie au niveau du haut du corps, du balancier, pour arriver à faire la tâche. Donc, le matériel s'améliore, mais encore une fois, on a peu de polyvalence et on a des systèmes qui sont presque autonomes, d'où le bon fonctionnement, on va dire. Pour le membre supérieur, ça fait un peu plus mal. Pourquoi ? Parce que membre inférieur, concrètement, une prothèse, elle peut guetter ce que va faire la personne avec son membre inférieur, c'est-à-dire quoi ? Être debout, marcher, courir, s'arrêter, tourner, voilà, il n'y a pas beaucoup d'action. Pour le membre supérieur, concrètement, quand vous regardez quelqu'un, il y a trop d'actions possibles avec le membre supérieur pour qu'une machine arrive à, en regardant ce qui se passe au niveau du corps, savoir ce qu'il va faire. Donc on est obligé de donner du contrôle à la personne sur sa prothèse. Et là, pour ça, on utilise une technologie qui est très ancienne, qui s'appelle la technologie myoélectrique. Alors j'espère, évidemment... Attendez, je vais essayer de... Il y a un petit bug de présentation. C'est un concept qui est ancien. Alors, toujours pas. Attendez, hop. Excusez-moi. Bon, je suis désolé, ça ne va pas s'afficher bien, mais c'est un concept qui date des années 60. Concrètement, il y avait l'illustration de ce premier bras prothétique qui utilisait la technologie myoélectrique. C'est le Russian Arm. Et depuis les années 60, ça a peu ou pas évolué. Concrètement, un patient amputé, il a un moignon, on va sélectionner des groupes musculaires sur son moignon, sur lesquels on va placer des petites électrodes de surface, des petits boîtiers qui mesurent la contraction musculaire. Et en fait, on va se servir de ces signaux de contraction pour piloter des fonctions électriques sur une prothèse. Donc, tous les patients amputés à l'heure actuelle par la Sécurité sociale en France, ils ont accès à une main motorisée et à un rotateur de poignet motorisé. Et ils ont deux signaux pour le piloter. Comment ça marche concrètement ? Finalement, par exemple, un patient amputé de bras, on va utiléser biceps-triceps. Pour l'avant-bras, on va utiliser les fléchisseurs extenseurs de poignet. Mais quand vous contractez votre biceps, l'électrode le mesure, elle va envoyer un ordre à la main de se fermer. Donc, tant que vous contractez, la main se ferme. Vous relâchez, elle s'arrête. Si vous faites le triceps, elle s'ouvre. Voilà le principe. C'est assez basique et ça marche plutôt bien. Le seul souci, en fait, c'est que vous avez en général plusieurs fonctions à piloter. Comme j'ai dit, vous avez au moins la main et le poignet. Et le problème, c'est que vous avez deux signaux. Donc voilà à peu près la commande que doit faire un patient qui doit attraper une bouteille et tourner la bouteille avec sa main, son ensemble main-poignet prothétique pour arriver à faire ce geste-là avec les contractions. En fait, on utilise un signal dit de switch qui est une co-contraction, c'est-à-dire que le signal, en fait, la personne, quand elle démarre, quand elle contracte son biceps, elle va tourner le poignet, et pour passer d'une fonction poignet à une fonction main, elle va co-contracter, elle va contracter les deux à la fois. Donc, elle peut faire une action seulement à la fois. Et donc, elle va d'abord piloter son poignet. Quand elle a bien orienté son poignet, elle va co-contracter pour passer à la main. Et là, elle va piloter la main, fermeture. Si elle doit réajuster le poignet, elle doit reco-contracter pour repasser au poignet et le réorienter. Concrètement, vous êtes obligé de faire articulation par articulation. Et puis, vous devez quasiment faire du morse avec vos contractions musculaires pour arriver à piloter votre prothèse. C'est fastidieux, c'est fatigant, c'est lourd. Et le vrai problème qu'il y a, c'est qu'en 2018, alors je suis désolé, les slides ne marchent pas, mais on a des mains polydigitales, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des mains qui sont des mains avec un moteur par doigt, donc possiblement on pourrait exhiber des postures très très anthropomorphes, pas simplement des mains qui font juste ouvrir-fermer. Le souci, c'est que la commande, elle n'a pas évolué. Et donc, ce qu'on propose aux patients, c'est des apps qui leur permettent de régler, en fait, de choisir, par exemple, de définir une sorte de langage morse avec la prothèse. Si je fais deux fois du biceps, une fois du triceps, alors la main, elle va se mettre en mode pleine main. Si je fais deux fois du triceps et je relâche, alors elle se mettra en mode doigt. Si je fais trois fois du triceps et puis une fois du biceps, alors elle se mettra en mode pince. Et donc la personne peut pré-régler une sorte d'organigramme pour arriver à avoir accès à quelques postures comme ça. Mais concrètement, c'est inutilisable. Oui ? Alors, il y a eu des tentatives, sauf qu'en fait, pour la majorité des tâches qu'on fait, on a des tâches bimanuelles qui ne sont pas symétriques et qu'en fait, c'est plus handicapant parce que finalement, en fait, il faut vous dire, c'est qu'un patient amputé de membre supérieur, il a moins besoin d'une prothèse que d'une membre inférieur parce que vous imaginez que la gestion de la posture, l'équilibre et tout, mais il y a peu de patients équipés de prothèses de membres sup qui s'en servent beaucoup. Pourquoi ? Parce que, en fait, même avec une seule main, vous faites tout. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que de faire du code morse pour peut-être arriver à mettre sa main en mode trois doigts pour arriver à attraper un objet qui, le temps qu'on a sélectionné la bonne posture, l'action est finie. Donc, il y a eu plein de tentatives, il y a eu des tentatives, on va venir sur la recherche d'amélioration de ça. C'est juste qu'à l'heure actuelle, les patients, même si ces mains polydigitales, elles sont remboursées, le contrôle, lui, c'est celui des années 60 et il n'est pas du tout adapté à ça. Donc, c'est extrêmement frustrant. À ça s'ajoute, donc voilà, donc il y a un gros décalage entre le matériel et les possibilités de contrôle. Il n'y a pas de retour sensoriel. Alors ça peut paraître, vous allez me dire, mais ils ont la vue. Sauf que vous-même, on s'en rend pas compte, enfin nous-mêmes, on ne se rend pas compte, mais le toucher est extrêmement important. Le toucher, le tactile, l'haptique. Quand vous, par exemple, vous insérez une clé dans une porte, si je vous anesthésie vos retours sensoriels du bras pour mettre une clé dans une porte, il va falloir 2 minutes. Pour craquer une allumette, il va falloir 5 minutes. En fait, on intègre le toucher à un très bas niveau, et c'est beaucoup plus rapide et moins lourd cognitivement à traiter que la vision, et c'est hyper important. Ces patients-là, avec une prothèse, ils doivent entendre la bouteille qui se déforme pour savoir la force qu'ils mettent, ils doivent voir la déformation des objets, sentir comme ça, et ça demande une attention extrêmement fatigante. Et puis bon, les approches, voilà, elles sont très lourdes. Et malgré le nombre croissant de dispositifs qui sont conçus par des labos, vendus par des entreprises, enfin, soi-disant vendus par des entreprises, même s'ils ne le sont pas vraiment encore, au fond, voilà ce qui est disponible pour tous les patients amputés de bras au monde, sur le marché, il n'y a que ces produits-là. Ça peut paraître anecdotique, mais par exemple, des rotateurs de poignets, il y a un seul fabricant, un seul modèle depuis 40 ans. Pour les coudes, il y a 4 fabricants et encore, il y a des modèles qui n'ont pas changé depuis les années 70. Donc, il y a beaucoup d'intérêt, de recherche, de développement, des trucs 3D, tout ça. Mais concrètement, à la fin, qui est vraiment disponible pour le patient, ça reste assez limité. Et là, vous avez les seules pièces qui sont prises en charge par la Sécu. À l'heure actuelle, les coudes actifs n'ont pas prouvé leur intérêt pour être pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, ça, c'est l'état existant. Je vais vous montrer un peu maintenant où en est la recherche. Concrètement, les besoins de la recherche sont les suivants. C'est d'améliorer la connexion physique au corps, parce qu'on a parlé beaucoup de fonctionnalités, etc. Quand vous demandez à un patient c'est quoi le problème avec sa prothèse, la plupart du temps, c'est l'emboîture, c'est l'attache au moignon, c'est le sanglage qui lui génère des douleurs, de la transpiration, des irritations, des douleurs. C'est la captation des signaux physiologiques, parce qu'à l'heure actuelle, avec nos petits boîtiers à l'extérieur du moignon, bah, si vous voulez, quand la personne transpire, les signaux changent. Quand le boîtier se décolle, la main, elle perd le contrôle. On a des patients qui, au volant, la main, elle peut rester coincée sur le volant parce que le moignon s'est décollé de l'électrode. Et puis, c'est la restitution d'informations pour essayer de restaurer des informations sensorielles pour qu'on puisse refaire du bouclage sensorimoteur. En fait, nous sommes des êtres sensorimoteurs, c'est-à-dire on agit parce qu'on perçoit. Et moins on perçoit, plus on a du mal à agir sur notre environnement. Et tous ces besoins, même s'ils sont très orientés prothèses, ce sont les mêmes besoins pour tous les dispositifs d'assistance, que ce soit les exosquelettes, les prothèses, les robots assistants pour des personnes paralysées. On est sur les mêmes problèmes, toujours la connexion au corps, capter l'intention motrice et puis rendre des sensations. Alors par exemple, pour l'emboîture, voilà la tête d'une emboîture classique pour un patient amputé de bras. Et là, c'est une version assez légère. Mais le patient, il a enfilé chaque matin une emboîture semi-rigide avec, en général, un système en silicone qui fait un peu ventouse et un harnais qui lui sangle à l'épaule opposée pour garantir une bonne attache à la prothèse. Récemment, il y a plein de recherches qui se font sur ce qu'on appelle de l'ostéo-intégration. L'idée, c'est de poser une broche dans l'os, au niveau du moignon, qui peut permettre aussi de poser des électrodes en implanté, ça on reviendra un peu là-dessus, et qui permet donc une fixation mécanique rigide au moignon, et surtout qui libère en fait tout l'épaule, il n'y a plus de harnais, là on a un patient qui est équipé de ça, donc cette petite broche, c'est les gens qui ont inventé les implants dentaires, qui ont extrapolé cette technologie en fait à la tâche de prothèse. Donc vous avez une broche là, vous avez un système qui évite, il n'y a pas de contact entre les chairs et l'extérieur, même si c'est un peu impressionnant, vous avez un système vissé dans l'os et une tige dessus qui permet la fixation. Donc ça résout un certain nombre de soucis, notamment avec ça, vous ne faites pas beaucoup de mouvements de votre moignon, même si vous pouviez. Donc vous êtes encore plus handicapé par le port de la prothèse, alors que là, vous pouvez faire des grands mouvements. Ça limite les pressions, la sudation, tout ça, c'est assez robuste. Il y a des gens qui... c'est principalement utilisé pour le membre inférieur, donc des gens qui courent dessus, ça marche très bien. Le problème, c'est que ça reste quand même un système invasif sur lequel on a peu de visibilité, avec des possibilités quand même à terme de risques infectieux, parce que vous avez quand même quelque chose qui est dans votre corps, dans l'os, avec une plaie plus ou moins contrôlée. Pour la captation des signaux, eh ben, on a une évolution, comme tout le domaine de la recherche, qui va de l'extérieur vers l'intérieur. La mode est à l'invasif, et ce n'est pas forcément justifié. Mais l'idée que, voilà, ça c'est les petits boîtiers de captation qui sont placés en général dans le manchon d'une prothèse, qui sont placés de manière à tomber au niveau des muscles du moignon et qui captent et qui amplifient les contractions musculaires. Maintenant, en fait, il y a tout un tas de dispositifs qui commencent à apparaître pour planter des électrodes au niveau des nerfs directement, alors à différents niveaux, au niveau de la moelle épinière, au niveau du nerf, autour du nerf, parce qu'on a pas mal de technologies plus ou moins invasives où, en fait, au lieu de se planter au travers du nerf, ce qui peut avoir des mauvaises conséquences, on entoure le nerf pour capter les intentions. Ça permet d'améliorer beaucoup la mesure des signaux, c'est-à-dire que concrètement, quand on est en surface, vous allez avoir plein de phénomènes de fatigue, de stress, de résistance de la peau, de sudation, de température, qui vont changer votre signal. Alors quand vous êtes dans le nerf, vous avez un signal beaucoup plus propre. Mais le souci, c'est que on a très peu de visibilité sur ça, c'est quand même s'implanter des choses dans les nerfs. On sait que à terme, les nerfs tendent à rejeter en fait, des corps étrangers, c'est le mécanisme de gliose, où il y a une sorte de barrage qui se fait à des corps étrangers, et donc les corps étrangers sont virés. Alors, c'est un peu moins vrai avec les électrodes dites coif, mais ça reste encore très très préliminaire, et ce qui est un peu décalé, c'est que des patients commencent à implémenter avec ça, sachant qu'on n'a pas de retour à moins de 5 ans sur le long terme de ces technologies-là. Et la mesure, elle reste quand même grossière, dans le sens où concrètement, même la plus dense des grilles d'électrodes-là, elle est ridiculement grosse par rapport à la dimension des axones des neuromoteurs. Et donc concrètement, ce qu'on capte, c'est une espèce de brouhaha d'un millier, voire centaines de milliers de neurones, et ça reste quand même grossi, on ne peut pas faire un beau décodage. Pour la captation des signaux, il y a une technique encore plus poussée qui se met en place, c'est qu'avant, bah, concrètement, vous étiez amputé, là, il y avait les nerfs qui allaient à votre bras, bah, on utilisait des nerfs restants, par exemple, on plaçait des électrodes sur vos pectoraux pour essayer de capter ces fameux signaux pour ouvrir ou fermer la main. Il y a une technologie qui a été inventée dans les années 2008-2007 aux États-Unis, à Chicago, qui consiste à faire du reroutage nerveux. Concrètement, c'est un peu violent. C'est les nerfs qui allaient à votre bras, on va les replanter sur des terminaisons nerveuses de groupes musculaires toujours présents. Concrètement, quand vous n'avez plus votre bras, votre pectoral ne sert plus à grand-chose. Donc, en fait, on va replanter les nerfs de feu votre bras sur différents sous-volumes musculaires de votre pectoral, ce qui fait qu'après entraînement, en fait, donc le patient il va avoir une chirurgie de reroutage nerveux assez lourde, des mois d'entraînement, de l'affinement de peau, etc. Si ça se passe bien, au bout de quelques mois, quand la personne elle pense à fermer sa main, eh bien, il y a une zone particulière du pectoral qui va se contracter. Quand elle va bouger son poignet fantôme, ça va être une autre zone du pectoral qui va bouger. Et donc après, on peut mettre une électrode main là, une électrode poignet ici, une électrode coude ici, et avoir plus de signaux de contrôle pour éviter de passer par deux électrodes qui pilotent tout, des approches plus compliquées. Et donc, là, c'est par exemple un patient bi-amputé de bras à qui on fait l'examen ensuite de localisation. Donc, on lui demande d'évoquer son fantôme et on essaie de comprendre s'il y a des zones plus associées, par exemple, à son pouce, à son petit doigt, etc., pour à terme ensuite placer des électrodes pour lui permettre de piloter un bras. Alors, cette chirurgie, elle est assez... Oui ? Alors, on se branche pas sur le muscle. C'est-à-dire que le muscle, c'est un amplificateur du signal nerveux. On pourrait le capter directement au niveau du nerf, mais il faut être invasif. Là, l'idée, c'est qu'il y a une chirurgie, mais qu'à la fin, les électrodes, elles sont posées en surface. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des escarres ou un système sans fil. Mais le muscle, c'est un super amplificateur de signal, ce qui fait que le signal est beaucoup plus fort et plus propre à analyser que les potentiels d'action qui transitent au niveau des neurones, qui sont microscopiques. Voilà. Et les vrais potentiels d'action, ce n'est pas à l'heure actuelle les mesurer de façon pérenne. On abîme le nerf ou c'est des solutions temporaires. Alors cette solution, il y a une dizaine de personnes qui l'ont eue dans le monde. Elle a fait les gros titres, mais elle n'est pas souvent pratiquée. Par contre, elle est en train de réapparaître à l'heure actuelle sous le terme de neurotisation de biceps. C'est-à-dire que quand vous êtes amputé de bras, eh bien, vous avez votre biceps triceps qui sert d'habitude à bouger votre bras. L'idée, c'est qu'on va faire la même chose. On va relier des nerfs de la main vers des petites portions de biceps et triceps qu'on va détacher des nerfs traditionnels du biceps-triceps. Ce qui fait que vous allez avoir biceps-triceps qui font toujours bouger votre coude qui n'est plus là, votre coude fantôme, mais vous allez avoir deux petites portions de votre biceps et triceps qui répondent plus à ça, qui répondent à la mobilisation de votre main fantôme. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir deux signaux, entre guillemets, on en aurait quatre. Et on pourrait avoir deux signaux pour piloter le coude et deux signaux pour piloter l'ensemble main-poignée, ce qui permet quand même de simplifier un peu les choses. Ça, c'est une procédure qui commence à être faite en France, et qui va être prise en charge, et il commence à y avoir des prothèses qui se servent de 4 signaux au lieu de 2 pour les patients qui ont subi cette chirurgie. Donc l'avantage de ces technologies, c'est que vous avez un contrôle direct de plusieurs articulations, vous augmentez votre capacité de contrôle, ça peut simplifier le décodage, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par un signal pour passer d'une fonction à une autre, mais concrètement, c'est invasif, on abîme des groupes musculaires sains, la chirurgie elle est extrêmement lourde, et il y a une phase de rééducation qui est extrêmement importante, qui est en général complètement oubliée par les médias quand ils rapportent ce genre de prouesse. Alors, ça donne ça. Un patient, le fameux Libo dont je parlais tout à l'heure, bien amputé de bras, qui a subi une double TMR, et là, il a le contrôle de plusieurs articulations, le coude, le poignet, la main, grâce à cette chirurgie, des mois d'entraînement pour refaire des tâches. Alors là, je me fais un peu de pub, mais nous, en France, on essaie, avec un consortium, de montrer qu'il n'y a pas besoin de faire de la chirurgie pour faire ça. Nous, on étudie en fait le membre fantôme et en fait les manifestations physiologiques qui se font naturellement sur le corps des patients quand ils mobilisent un membre fantôme. Et on se rend compte qu'en fait, naturellement, cette réinnervation que là, les chirurgiens font artificiellement, elle semblerait se faire un peu naturellement. On ne sait pas encore pourquoi, on y travaille. Mais en tout cas, nous aussi, on arrive à décoder ce que fait le membre fantôme de patient. Et on arrive à mimer en temps réel, avec une prothèse, ce que le patient fait avec son fantôme. Ce qui fait qu'on ne passe plus par « je contracte mon biceps, triceps et je navigue », etc. C'est « je bouge mon membre fantôme » et la prothèse comprend les patterns d'activation sur le moignon et essaie de mimer ce qui se passe, dans le monde réel. Alors, c'est les débuts. On est moins sûrement robuste parce qu'on fait de la mesure extérieure et puis nos sites sont moins forts qu'un site qui a été branché par un chirurgien, mais il y a un grand espoir, et surtout, ce qu'on essaie d'attirer l'attention, c'est qu'il y a plein de choses à faire de façon non-invasive, sans forcément aller rerouter, trifouiller les nerfs des patients. Parce qu'en fait, au fond, le patient lambda, c'est pas libo. Si vous demandez à des patients s'ils sont prêts à repartir sur le billard pour se faire rerouter les nerfs, 90% vous diront non. Surtout qu'à la fin, c'est pas mal, mais concrètement, la chirurgie pour atteindre un niveau comme ça, c'est intéressant, mais vous n'avez pas de retour sensoriel, vous avez un contrôle séquentiel de vos articulations, ça marche une fois sur deux. Il y a toujours un certain nombre de soucis qui ne sont pas résolus malgré la chirurgie. Oui ?
Est-ce que ça présuppose pas que... Alors, c'est bien bête comme question, mais ça présuppose que la personne a déjà les membres et que ça a été amputé.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est un point hyper important que vous soulignez là, c'est qu'en France, on a le mot amputation qui recouvre un peu tout et qui recouvre aussi ce qu'on appelle l'agénésie. Ou l'amputation congénitale, donc des gens qui sont nés sans membres, il y a en ce moment toute une polémique autour de ça dans l'Ain, il y a différents types d'agénésie, il y a notamment la maladie des brides amniotiques, en fait, où il y a des fibres qui se développent dans le liquide amniotique qui ne sont pas visibles à l'examen et qui en s'enroulant autour des membres empêchent leur bon développement. Donc c'est des gens qui naissent vraiment sans un membre, où il y a des amputations congénitales, des gens qui naissent avec un membre tellement déformé qu'à la naissance on procède à une amputation. Donc c'est des gens qui soit sont naissants, soit ont appris leur corps sans, et qui se sentent en général complets sans prothèse. Et il y a une association en France qui s'appelle la CDA qui s'occupe de ces patients et de ces familles de gens agénésiques parce qu'ils ne sont pas considérés à part alors qu'ils ont une relation à la prothèse qui est différente. Certains ont beaucoup de mal à porter une prothèse. Ils le font pour les autres, mais pas forcément pour eux. Et ils ont appris à servir d'un corps comme ça. Alors il y a beaucoup de débats derrière sur le fait que est-ce que notre schéma corporel est inné, acquis ? Est-ce que, en fait, quelqu'un qui est né sans un membre, il aurait peut-être un fantôme ou pas? Nous, dans le consortium, on essaie aussi de commencer à investiguer des gens qui ont ce genre de syndrome-là. Et on en est au début, on ne sait pas encore. Mais concrètement, la question dans notre consortium se pose, à savoir est-ce qu'un patient qui est naissant peut avoir un membre fantôme? Pour l'instant, on n'a pas rencontré. Mais le phénomène de membre fantôme, à l'heure actuelle, on est partagé entre... Il existe pour deux raisons, pour une raison centrale et périphérique. La raison centrale, c'est que dans le cortex moteur, même si vous naissez sans ce membre, dans votre cartographie du cortex moteur, la zone du membre manquant est peut-être encore présente et elle pollue les aires adjacentes. Ou, réorganisation périphérique, c'est que, en fait, les nerfs amputés recolonisent naturellement certains groupes musculaires, comme le ferait un chirurgien en réinnervation. Et donc, comme il y a toujours quelque chose de branché au bout, le cerveau maintient cette voie-là, d'où ce phénomène de membre fantôme. Mais on n'a pas encore de certitude là-dessus. Et donc ça aura des conséquences sur comprendre est-ce que ce phénomène peut être présent, c'est la génésique ou pas.
J'ai encore une question.
Je vous en prie.
C'est combien de pourcentage en termes de la population, par exemple en France, parce qu'il y a un pourcentage pour les amputés, des...
Alors, en France, je crois que la population d'amputés, elle est de 20 000 personnes, dont 4 000 pour le membre supérieur, avec 200 nouveaux cas par an. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un facteur 4 à 10 entre les amputations de membres sup et membres inf. Ça dépend des pays, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que membres inférieurs, il y a une explosion des amputations à cause des maladies de diabète, des maladies des voies circulation sanguine. Vous avez des problèmes de circulation dans les extrémités distales, et donc l'amputation de pied, elle devient très courante. Et c'est pour ça que dans les pays en voie de développement, il y a aux États-Unis 10 fois plus d'amputés de membres inférieurs que de membres sup, pour ces raisons-là. L'amputation de membres supérieurs, maintenant, c'est de l'accident, voire de la tumeur, mais c'est en général de l'accident. Donc c'est des gens qui travaillent avec des machines-outils, des accidents de voiture, et ce genre de choses-là. Donc là, c'est réduit. J'aurais pas de chiffres à vous dire, et puis c'est très faible. Il suffit de voir, de toute façon... C'est très difficile d'avoir les chiffres parce qu'il y a, en fait, c'est pas vraiment des patients, c'est-à-dire que vous pouvez naître sans un bras ou perdre un bras. On va vous suivre pendant la phase d'amputation, mais ensuite vous allez être suivi par un appareilleur privé pour avoir une prothèse. Il y a une prescription médicale, mais il n'y a pas de référencement au niveau national, ce qui pose des problèmes de nomadisme thérapeutique. Mais ça donne le résultat, c'est qu'on a assez peu de visibilité sur la population réelle. Et quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle sur savoir combien dans l'un d'enfants sont nés avec cette condition-là ou pas, ça donne une bonne idée de à quel point on sait, on connaît et on voit cette population précisément. Alors, je vais passer un peu plus rapidement, parce que ça c'est plus anecdotique, mais sur la restitution d'informations, depuis une dizaine d'années dans les laboratoires, on travaille sur de la substitution sensorielle. L'idée c'est que ça vient de ce qui se fait depuis les années 60, par exemple pour les patients aveugles, à qui on essaie de restaurer la vue par du toucher. Concrètement, une caméra qui verrait la scène, qui traduirait sur une matrice tactile de braille le contour pour donner en fait la vue par le toucher à des patients. C'est de la substitution, c'est-à-dire on se sert d'un sens toujours fonctionnel et on transforme l'information pour la donner via un autre sens. Ça demande beaucoup d'entraînement, d'apprentissage, mais les patients aveugles sont capables presque de voir par la vue, par l'ouïe, et certains par le toucher aussi de percevoir beaucoup de choses. Donc l'idée, par exemple, un patient amputé, c'est qu'on va mettre des capteurs de force dans sa prothèse ou des capteurs de toucher et on va lui restituer par des informations, par exemple en général vibrotactile ou mécanotactile, la pression ou des vibrations, sur son moignon ou ailleurs sur son corps, une vibration qui est proportionnelle au toucher. Alors ça peut être aussi de la stimulation électrique et donc ça fait que vous sentez au travers de la vibration. Et donc avec beaucoup d'entraînement, vous pouvez récupérer un peu cette capacité à percevoir des sensations de toucher. Mais ça demande quand même beaucoup d'entraînement et ça reste assez limité dans le sens où nous, quand on touche une surface, on a la température, la texture, on a aussi du son qui vient avec. Beaucoup de patients, en fait, ça, connaissent la texture par le son que leur prothèse fait avec l'environnement. On développe des substitutions naturellement, très facilement. Mais disons qu'on restaure des choses très, très grossières, en fait, avec ces systèmes-là. Il y a eu des avancées. Alors, les mêmes qui font de la réinnervation des nerfs moteurs, ils ont fait de la réinnervation des nerfs sensoriels. L'idée, c'est que les nerfs qui allaient au capteur tactile de vos mains, on va les rerouter vers des capteurs tactiles de votre peau de pectoral. Et après chirurgie, entraînement, etc., si vous touchez le pectoral ici pour cette personne, elle va avoir l'impression que vous lui touchez le pouce fantôme. Si vous touchez ici, ça sera le petit doigt fantôme. Et donc l'idée, c'est qu'ensuite, on met des stimulateurs sur cette zone dans l'emboîture, ce qui fait que ce qui est mesuré par la prothèse, on le rejoue sur la cartographie pour ces patients. Ça, c'est quelque chose qui est fait chirurgicalement, mais qui existe aussi naturellement chez les patients. On appelle ça des cartographies référées. Très souvent, les patients, il faut savoir, alors c'est un peu anecdotique, j'ai pas de support là, mais que suite à une amputation, par exemple, de main, dans le cortex moteur, la zone la plus proche de la main, c'est le visage. Et il y a une migration dans les heures qui suivent l'amputation qui fait que, dans les heures qui suivent, les patients sentent leurs mains sur leurs joues. Et donc, quand un patient, dans les heures qui suivent son amputation de main, si vous le touchez la joue, vous pouvez dresser la carte de sa main, à peu près, qui apparaît sur sa joue. Et en général, ça disparaît quelques heures après. Et ça peut réapparaître au niveau du moignon. Donc, il y a des patients qui ont une sensation référée au niveau de la cicatrice. Par exemple, au niveau de la cicatrice du moignon là, vous leur déplacez le doigt le long de la cicatrice et ils sentent que vous leur déplacez le long de la main, de la paume de la main. Bah, c'est un peu ce qu'on retrouve ici, mais version américaine à grand renfort de routage nerveux. Il y a encore moins de personnes qui l'ont reçu, cette chirurgie-là, et surtout quelqu'un qui doit à la fois avoir dans son emboîture 8 capteurs pour son contrôle reroutage nerveux, plus tous les tacteurs. Donc ça, c'est des tacteurs qu'ils utilisent, qui sont capables de faire de la pression du contact, de la température, etc. Ça doit être extrêmement complexe à gérer pour arriver à interagir avec l'environnement. Alors, il y a des tentatives invasives qui ont été mises en place. Ça, c'est une étude en 2014 qui a fait beaucoup de bruit, dans laquelle, en fait, on a planté des électrodes dans les nerfs sensoriels du bras d'une personne amputée. Donc, des capteurs de force au niveau des doigts envoient des impulsions électriques sur les nerfs, ce qui fait que la personne a pu, les yeux bandés, déterminer la raideur d'objets qu'elle touchait, la forme, en sachant si son pouce, son petit doigt et son index touchaient. Donc, c'est une première tentative, mais pour connaître l'équipe qui fait ça et les gens, la personne leur apporte les sensations qui sont rendues. Si vous voulez, on se branche sur les nerfs, mais on n'envoie pas des jolis messages comme ça. C'est un peu comme si on donnait à la personne la capacité d'entendre rien ou un concorde au décollage. C'est-à-dire que quand on stimule les nerfs, à l'heure actuelle, on envoie des décharges et on est à des années-lumière de renvoyer des jolies impulsions nerveuses qui correspondraient à une texture de « je touche du bois ». Donc, voilà, c'est intéressant parce qu'on progresse, on comprend aussi les relations, enfin l'encodage, on travaille sur l'encodage nerveux des informations sensorielles, mais au fond, il y a des problèmes d'invasivité. Le problème, il n'est pas tant sur transmettre que comment encoder toute l'information dans des signaux ou des simples appuis ou des vibrations. Et puis à la fin, ça va générer une complexité cognitive qui fait que la personne, si à chaque fois que vous avez une sensation, il faut que vous passiez une pause de 10 secondes pour vous dire quand ça vibre là et là, et trois fois comme ça, c'est que maman est en train de glisser, c'est pas utile dans votre vie courante. Donc, l'autre évolution en fait, sur la captation des signaux, c'est que tout le monde tente d'aller de la mesure du système périphérique à la mesure du système central. Le rêve, c'est qu'au lieu de se piquer dans les nerfs ou dans les muscles, allons-y directement dans l'organe de contrôle principal, le cerveau, pour arriver à décoder quelque chose. Donc il y a plein de technologies. Hein. Ça, c'est des tentatives d'implants. Alors vous avez des choses plus ou moins invasives. Ça va de l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire un casque posé sur votre tête, jusqu'à de l'électrocorticographie, c'est posé sous votre crâne, sur votre dure-mère, voire des électrodes implantées, comme cette patiente-là en 2012. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que en fait, ça peut augmenter la dysfonctionnalité du contrôle. On pourrait être dans la zone où tout est centralisé, il n'y aurait pas besoin de se piquer dans différents muscles distincts, mais au fond, ça reste que des objets preuves de concept. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je vous dise de mots comment ça marche, ces genres de choses-là. Ça marche avec du machine learning, de l'IA, le gros mot actuel. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on entraîne un algorithme à détecter des activations et en fait à associer ces activations-là à une action. Et inversement, on entraîne une personne à exhiber des états cérébraux qui vont générer un certain type d'activation. Concrètement, le paradigme, c'est si vous pensez très fort à quelque chose, c'est très grossier, par exemple un carré rouge qui sent la fraise, qui est chaud et qui s'agite dans tous les sens, et bien en fait, quelle que soit la technologie d'électrode, vous allez avoir un certain type d'activation, de bruit électromagnétique qui va apparaître sur ces électrodes-là. Et l'ordinateur, on va lui dire, tu vois, là, il est en train de penser à un carré rouge qui sent la fraise, etc. Et ensuite, on va demander à un rond bleu, froid, qui sent la menthe, qui est immobile, et on va prier pour que ça génère des activations différentes. Et l'algo, on va lui dire, tu vois, là, c'est un carré bleu, machin. Et après, vous avez un algo qui est en ligne, essaie d'identifier ces deux états cérébraux, et quand il en détecte un, il active une fonction sur un dispositif robotique. Par exemple, sur ce bras-là, la personne, elle n'avait pas le contrôle de, oh, je vais attraper le soda pour boire quelque chose. Non, elle pense à son carré rouge pour peut-être lever la main. Elle pose au rond bleu pour avancer la main. Elle avait un certain nombre de contrôles discrets, par exemple haut, bas, droite, gauche, fermer la main, mais c'est tout ce qu'elle a. Et le problème en fait de ça, c'est que ces algos de machine learning, si par exemple, je ne sais pas, on vous donne deux cafés, on vous enlève des électrodes, on vous les remet, concrètement, la mémoire, l'entraînement de l'algorithme, et tout est à refaire. Parce que concrètement, vous n'allez plus penser à votre état cérébral de la même façon. Et donc les signaux vont être différents, donc il faut rentraîner l'algo. Donc toutes les démonstrations qui sont faites de labo avec des électrodes implantées, etc., elles ne marchent que quelques heures. Il faut régulièrement entraîner l'algo par des démonstrations. Et ça demande beaucoup d'entraînement de la part des patients. Donc les interfaces aux machines, ça peut marcher, voilà, pour de l'électroencéphalogramme, c'est très bruité, ça peut marcher pour des actions avant, arrière, droite, gauche. Mais pour l'implant, on peut atteindre un peu plus de dimension de contrôle. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'autorisation de laisser des implants à long terme. Donc c'est des tentatives cliniques qui durent quelques semaines ou quelques mois, et ensuite les implants sont retirés. Donc c'est des preuves de concept. On ne sait pas du tout à long terme comment ça va être rejeté ou pas par l'organisme. On sait que tout ce qui est planté, au bout d'un moment, le corps le rejette. Et puis, c'est unilatéral, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de retour sensoriel. Les objets commerciaux qu'on voit de temps en temps apparaître dans les médias, c'est des blagues. Je veux dire, quand là, le PFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, avec 64 électrodes, arrive à décoder avant, arrière, droite, gauche et encore, et qu'une boîte clame qu'avec une électrode sur le front, on peut vous faire jouer à un jeu vidéo, concrètement, à part mesurer la contraction des muscles faciaux, on ne détecte pas grand-chose. Et il y a des avancées. Là, par exemple, alors ça, c'est des genre usine à gaz de la recherche, un patient tétraplégique qui, par un implant cérébraux, via des états cérébraux, il pilote des contractions musculaires de son bras. En fait, il a un corps paralysé. Donc, quand il pense à des états, il a un état, par exemple, fermer la main. L'algo détecte fermer la main, envoie des décharges par de la stimulation électrique fonctionnelle à son avant-bras pour lui faire fermer la main. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que bon, c'est des technologies existantes, qu'il n'y a rien de très nouveau, mais l'assemblage était assez beau, et surtout qu'ils n'ont pas caché que la personne, pour arriver à ce résultat-là, elle s'est entraînée à raison de 2 fois 4 heures par semaine pendant 2 ans pour arriver à un résultat de faire une opération assez basique de manipulation d'objets. Là, ça c'est plus impressionnant, c'est une technologie, c'est l'électrocorticographie, c'est-à-dire qu'on pose une grille d'électrode sous le crâne, mais pas dans le cerveau, sur la dure mère. Et ça permet d'avoir accès beaucoup plus fin aux signaux. Et là, on peut arriver à décoder presque en temps réel ce qu'une personne est en train de faire sur sa main. On peut arriver à détecter le doigt qu'elle est en train de mobiliser. Donc ça ouvre des grandes perspectives. Le problème, c'est que ça reste quand même assez invasif et que les seuls patients à l'heure actuelle qui reçoivent de l'ICOG, c'est des patients épileptiques profonds dans des cas de traitement particuliers. C'est quand même pas une solution à très long terme. Et là, pareil, c'est pas magique. Ça va marcher quelques heures. Ensuite, il faudra réentraîner l'algorithme. Voilà. Donc ça, c'était mon état de l'art, un peu de ces technologies-là. Donc ce que vous voyez, en fait, c'est qu'il y a des verrous technologiques qui ont sauté. Il y a plein d'avancées, il y a quand même des objets qui sont là, mais il y a des gros problèmes scientifiques derrière à résoudre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on fait des trucs bruts avec du machine learning, où on dit, tu vois, l'ordi, là, il est en train de faire ça, ça s'active comme ça quand il fait ça. Parce que c'est une approche brute, parce qu'on ne sait pas encore expliquer pourquoi, quand on veut faire telle action, ça s'active là, là et là et là. On ne sait pas pourquoi. Le papier à l'heure actuelle qui fait le buzz de Nature, où des patients paraplégiques commencent à remarcher grâce à la pose d'un implant de stimulation médulaire, on ne sait pas encore vraiment pourquoi ça marche. Donc il faut être très, très humble sur les capacités qu'on a avec la technologie, parce que derrière, scientifiquement, il y a des choses qui nous dépassent au niveau du contrôle moteur, du cerveau, etc. L'autre chose, c'est que ce n'est pas parce que c'est implanté que ça résout beaucoup de choses. L'implantation n'est pas la solution parfaite. Ça fait un peu plus futuriste. On va vers l'homme hybride, la fusion du corps et de la machine, mais au fond, des fois, ça fait des usines à gaz qui n'apportent pas grand-chose. Le prototype n'est pas le produit. C'est-à-dire que ça, c'est une manip de labo, mais les médias ont une tendance maintenant à faire les gros titres sur des résultats de labo qui ont été faits où la démo a marché pendant 10 minutes, avec 1 million d'euros investis, 10 chercheurs qui sont autour, un patient qui s'est entraîné 2 ans, et d'en faire une technologie qui soit utilisable couramment, qui soit transféré en un produit, que le patient lambda amputé puisse le matin démarrer sans faire 2 heures d'entraînement à penser au carré rouge et au rond bleu, c'est un vrai travail et ça, c'est pas dit qu'on arrive à passer outre ce problème-là. Et ensuite, le plus important, c'est qu'il n'y a rien d'inné, tout est réacquérir. Toutes ces technologies-là, elles ne vous restaurent pas votre corps tel qu'il était avant. Il va falloir apprendre à utiliser un nouveau corps comme un nouvel outil. Et ça, en général, c'est assez zappé et beaucoup de patients sont surpris par la complexité du contrôle d'une prothèse et assez rapidement, ils vont l'abandonner parce qu'on ne leur avait pas dit en fait, que ça allait être aussi compliqué pour simplement ouvrir et fermer la main. Et ils ont aussi vite fait de le faire avec l'autre main ou avec leur moignon. Et donc, cette phase-là, elle est fondamentale. Donc, ces technos, à l'heure actuelle, elles n'offrent pas de capacité surhumaine, mais par contre, elles en demandent quasiment pour arriver à fonctionner. Un patient qui irait innervé sensoriellement et d'un point de vue moteur, je ne sais pas cognitivement comment il fait pour arriver à se focaliser sur la tâche, sur tout ce qu'il reçoit et tout ce qu'il décode. Alors, bon, je vais passer rapidement, mais sur les organes artificiels, il y a des progrès. Il y a des progrès aussi, pourquoi ? Parce que ces dispositifs-là, ce sont des dispositifs qui sont végétatifs, c'est-à-dire vous n'avez pas de contrôle dessus. Et donc, des pacemakers autonomes, on sait faire. Le cœur artificiel, c'est les débuts, mais gardez à l'esprit que ce cœur-là, ce qui est incroyable, c'est que c'est quand même des valves animales qui ont été traitées, qui sont couplées avec aussi du tissu animal à l'intérieur, avec un dispositif mécanique, c'est une bioprothèse. Et c'est quand même un objet assez fascinant, et d'arriver à faire maintenir en vie quelques mois des personnes, c'est une étape assez incroyable. Les pompes à insuline implantées, on va au-devant aussi de générations qui ne vont plus avoir peut-être à se piquer et à s'injecter de l'insuline, qui vont avoir un dispositif qui va réguler leur insuline pour eux, qui vont retrouver une certaine normalité. Pour la réparation des sens, les implants cochléaires, sont assez efficaces, mais pour la plupart des choses, les rétines artificielles, etc., ce sont des ersatz de perception qu'on restaure, et ça va demander un réapprentissage. On ne vous rend pas la vue, vous allez devoir réapprendre à interpréter des sensations qui sont transmises à votre cerveau. Donc il y a toujours une phase d'apprentissage qui est très importante. Pour les sujets sains, en termes d'augmentation, il existe des choses, mais c'est des choses très ponctuelles et un peu anecdotiques. Par exemple, vous avez tout ce débat sur des augmentations cognitives, par exemple la fameuse TDCS, la stimulation crânienne transdirecte. Concrètement, vous prenez deux électrodes, deux éponges, parce que les biohackers aiment bien se bricoler des choses comme ça, et vous faites circuler un faible courant électrique. Et en fait, il y a des études qui montrent que vous gagnez un gain de 2 à 5% de capacité cognitive sur des tâches de suivi d'attention ou des tâches mathématiques. Bon, vous gagnez 4 heures de mal de crâne aussi après coup. Et il y a autant d'études qui doutent que d'études qui montrent que ça marche, mais il y a des moyens d'avoir une sorte de petit boost comme ça. Mais si vous voulez d'autres moyens, il y a la Ritaline, hein, sans passer par des technologies comme ça. Il y a plein de produits de traitement d'attention qui sont utilisés, détournés pour du dopage cognitif, qui sont utilisés par plein de professions. Quand on voit le volume d'utilisation de méthylphénidate à l'heure actuelle et le nombre de patients vraiment qui ont des troubles de l'attention, il y a quelque chose de bizarre. Dans des augmentations sensorielles, il y a des trucs bêtes, mais qui marchent. Par exemple, ça, c'est l'Institut de sciences cognitives de Osnabrück qui a travaillé sur une ceinture qui vous donne le sens d'une heure magnétique. Vous avez des vibreurs, vous avez une boussole magnétique électronique, et concrètement, le vibreur aligné avec le nord, il vibre une fois toutes les 5 secondes. Et quand vous portez cette ceinture-là, alors elle existe aussi en version cheville, vous la portez 2 semaines, l'étude montre que votre sens de l'orientation se décuple. Parce qu'en fait, vous avez en permanence, vous intégrez vos rotations. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, en ville, ils savent que la route est coupée en voiture, ils vont dire, je vais faire droite, gauche, gauche, droite, je serai dans la même direction qu'avant. Moi, ça ne marche pas comme ça, je me perds complètement. Mais quand vous avez ce système-là, en fait, vous savez que vous allez dans telle direction par rapport au nord, vous avez une référence absolue en permanence, et les gens développent ce genre de choses-là. C'est simple, mais en soi, c'est déjà presque une augmentation. Alors là, c'est des tentatives de gens, ce qu'on appelle des grinders, je vais y venir après, mais qui essaient de se développer des sens magnétiques en s'implantant eux-mêmes des aimants dans la pulpe des doigts pour avoir un sens magnétique. Ça reste très artisanal et très très peu fonctionnel, surtout que les médecins refusent de le faire, donc ils le font eux-mêmes, ça marche plus ou moins bien. Et si on regarde les augmentations motrices, il commence à y en avoir, mais ça ne prend pas la tête d'une armure de G.I. Joe, d'un exosquelette du futur. Par exemple, le MIT ou Carnegie Mellon travaillent sur des dispositifs très simples à base de ressorts ou de systèmes de tendeurs et d'enrouleurs qui vous restituent l'énergie ou qui vous en fait, soulagent de la réalisation de certaines opérations. Quand vous courez, par exemple, le relevé de pied est particulièrement coûteux énergétiquement. Et bien, ce pauvre système-là d'enrouleurs à câble qui vous relève, qui vous aide à relever le pied pendant que vous marchez ou vous courez, il vous permet de gagner de 5 à 10% de consommation énergétique à la marche. Donc, en soi, des systèmes simples, des outils peuvent vous augmenter. Alors, ça reste limité. Alors, les médias, en ce moment, font les choux gras de ce qu'on appelle les supernumérés robotiques slim, les membres robotiques surnuméraires. Mais il faut bien voir que ce n'est pas des systèmes d'hybridation, c'est plutôt des robots collaboratifs qui sont portés. Alors là, vous avez un système qui, quand il y a des capteurs sur vos mains, quand vous levez les mains, les bras se lèvent, ce qui fait que, par exemple, vous pouvez maintenir un objet en l'air et le bricoler. L'idée, c'est d'essayer de faire des assistants du futur pour des opérateurs dans l'industrie manufacturière. Là, vous avez un système de jambes où si vous tombez en arrière, les jambes, elles se bloquent pour éviter que vous basculiez en arrière quand vous portez, par exemple, une voilure d'avion. Là, c'est des mains qui sont pilotées par le mouvement des pieds. Bon, il y a plein de choses comme ça, mais ça reste des tentatives et c'est plus un dispositif réactif que vous portez. Ce n'est pas en soi un vrai membre sur lequel vous avez du contrôle et du ressenti. Alors, tout ce qui se fait dans le domaine du body hack reste à l'heure actuelle plutôt des choses de l'ordre de la body mod, enfin de la body modification plus artistique. Pardon. Donc, les gens qui s'implantent des aimants ou qui s'implantent des LED sous la peau, ça reste une performance artistique plutôt que quelque chose de fonctionnellement très efficace qui vous augmente. Concrètement, ça augmente pas grand-chose de pouvoir éclairer sa serrure la nuit via des LED placés sous la peau. Donc, je vais finir là-dessus. En fait, c'est que il y a plusieurs explications de ce décalage finalement entre la réalité technologique, de la recherche, les dispositifs réels, les labos, etc. Et puis, cet imaginaire de science-fiction qui n'est pas que dans la science-fiction. C'est-à-dire, il y a plein de politiciens à l'heure actuelle qui ont une vision très, très fantasmée et fantastique de la technologie. Même voir des philosophes qui s'intéressent des fois aux questions de la technique, qui citent, sans savoir que c'est un jeu vidéo, des prothèses issues du jeu Deus Ex de Konami. Tout se mélange. Et il y a plusieurs raisons à ça. Alors, la première raison, c'est que il y a, pour en revenir aux gens surmédiatisés, il y a des êtres ponctuellement augmentés. Pistorius, ok, il court plus vite avec ses lames de course. Mais pourquoi, au bout des courses, il est toujours comme ça, en mouvement permanent? C'est que ces mêmes lames de course, s'il s'arrête, il tombe. Parce qu'elles lui permettent que de courir, elles ne garantissent pas l'équilibre statique. Pour marcher en statique, il faut des pieds à talons, type K1, K2. Et donc, concrètement, ces gens-là sacrifient la polyvalence humaine pour une surcapacité. C'est-à-dire que, par exemple, il existe une prothèse chez Autobock, le Greifer pour les bricoleurs, qui sert deux fois plus qu'une main humaine. C'est une tenaille mieux électrique, mais concrètement, aller jouer du piano ou attraper un petit objet avec une tenaille comme ça. Donc il ne faut pas se faire avoir par ça. Ce n'est pas parce que ponctuellement, il y a une surcapacité qu'il y a une vraie augmentation. On est un peu sur le même dérive qui se passe avec les IA. Quand il y a une IA qui sait super bien jouer à un jeu vidéo, on dit, ça y est, l'humanité est foutue, les IA sont plus intelligentes que l'humain. Non, c'est une augmentation, c'est une performance locale. Il faut vraiment regarder que notre principale performance corporelle, c'est la polyvalence et c'est la capacité d'adaptation et d'apprentissage. Et ça, à l'heure actuelle, on en est très loin. L'autre raison, c'est la confusion entre l'expertise motrice et l'augmentation. Quand on voit Yehudi Menuhin, on se doute bien qu'il ne s'est pas levé un matin comme ça et qu'il savait jouer, on lui a mis un violon dans les mains et paf, il jouait incroyablement bien. Chose qui arrive un peu plus quand on voit les enfants prodiges, on se dit, oh, c'est incroyable, ils ont un talent, un don. Il faut savoir que Sirena Huang, elle doit s'entraîner, je pense, 16 heures par jour pour arriver à ce niveau-là. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe quand on voit certains patients très médiatisés, on se dit, c'est incroyable, la technologie remplace, ils mettent leur prothèse. En fait, c'est qu'on oublie que ce n'est pas une augmentation, une réparation, c'est surtout une nouvelle expertise sensorimotrice. Un patient qui maîtrise bien sa prothèse main-poignet pour faire ses lacets qui passent du poignet à la main, derrière, il vous fait croire que tout va bien. En fait, il est en train de faire biceps, biceps, triceps deux fois. Il regarde à droite, à gauche. Il n'a pas le toucher, alors il vérifie qu'avec les yeux, il a bien le lacet. C'est un athlète et c'est quelqu'un qui est un expert sensorimoteur qui s'est vraiment entraîné. Il vous donne peut-être l'illusion que c'est facile, mais au fond, ce n'est pas un surhomme, c'est un athlète. C'est comme quelqu'un qui aurait appris à jouer dans un instrument de musique. Il a passé ce temps-là. Et on oublie en général aussi les techniques du corps. C'est-à-dire qu'on oublie que notre corps, c'est notre premier outil, et qu'il a fallu un certain nombre d'années pour arriver à bouger les mains sans bouger les pieds en même temps. Et en fait, c'est de la même façon quand on va avoir une nouvelle prothèse, il va falloir réapprendre, même une prothèse de main inférieure, dont je vous disais qu'elle marche bien, il va falloir apprendre une nouvelle démarche de hanche, un truc pour que la prothèse comprenne bien que là, vous êtes en train de marcher, qu'elle ne doit pas se verrouiller. Et tout ça s'apprend. Et donc derrière, en général, le mythe de l'homme augmenté, c'est un mythe de l'instantanéité. Cette idée que tout de suite, si on faisait un peu plus on lisait entre les lignes des temps d'apprentissage, de toutes les prouesses qui ont été faites dans les laboratoires, on se rendrait compte que, vu le temps que la personne elle a payé, l'énergie qu'elle a mis là-dedans, je ne sais pas si on peut encore parler d'augmentation ou de d'enhancement et de choses comme ça. Alors là, on y vient aussi à ça, c'est qu'il y a une vraie technophilie, un fantasme du progrès qui peut porter à conséquence. Un exemple, en fait, c'est, vous êtes peut-être pas mal à connaître ce jeu-là, qui s'appelle Deus Ex, qui est un jeu édité par une société japonaise qui s'appelle Konami. Alors, il y a eu plein d'éditions, mais ils ont fait une sorte de buzz sur Internet. À l'époque, ils ont sorti ce jeu-là, où ils ont créé un faux site dans lequel il y aurait eu une société pro-life, une société pro-cyborg, et ils s'attaqueraient, etc. Et ils ont fait des courts-métrages, des publicités virales, assez fantastiques, au point fantastique que régulièrement, il y a des philosophes ou des sociologues ou des politiciens qui se servent de ce genre de capture de Sarif Industries, pensant que c'est une vraie entreprise qui vend des prothèses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la société, en 2016, elle a financé la réalisation d'une prothèse inspirée par le jeu vidéo, avec une orthoprothésiste et puis un heureux gagnant de cette prothèse-là. Ils ont fait une prothèse du futur, inspirée du jeu. Donc vous voyez, cette prothèse-là, concrètement, elle est futuriste. Hein, elle répond à tous les canons esthétiques du cyborg, etc. Concrètement, elle a moins de fonctionnalités que la prothèse remboursée par la sécurité sociale à l'heure actuelle. Elle marche comme celle des années 60. C'est-à-dire, il y a des électrodes dans l'emboîture, il pilote que la main, il n'a pas de poignet, il n'a pas de coude, le reste, c'est du gadget. Mais cette prothèse 2016 Konami, elle a une station d'atterrissage d'un mini-drone. Elle a un écran LCD qui permet de recevoir son flux Twitter. Elle a des lasers et des LED qui clignotent en fonction du rythme cardiaque. Concrètement, là, il y a un raté. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet, il y a un risque en fait, avec la présence de cette espèce d'imaginaire, c'est qu'on réponde à un objet de désir pour la société technophile plutôt que pour le besoin réel du patient. Et il y a un super reportage, je crois, de Vice sur on suit l'appareillage de ce patient qui est dépité, qui reçoit sa prothèse et elle ne marche pas, elle lui fait mal et il est désespéré. Mais la deuxième partie du documentaire est intéressante parce qu'en fait, il se rend compte que sa prothèse qui ne marche pas, ben, elle clignote et quand on le pose dans la rue avec son truc laser qui clignote, tout le monde vient lui parler. Tout le monde vient lui parler d'Iron Man, etc. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une prothèse, elle a un double rôle. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a un rôle fonctionnel, mais elle a aussi un rôle de médiateur social et de réinsertion. Et pour le coup, cette figure et cet imaginaire du cyborg peut aussi avoir un intérêt positif pour le patient. Et j'en viens au dernier slide, qui est qu'il y a aussi des patients qui se servent un peu de cet imaginaire-là pour se reconstruire une identité sociale et moduler les stigmates. C'est-à-dire, c'est quand même plus sympa d'être pris pour Flash, ça c'est un patient avec lequel je travaille, c'est une photo qu'il avait fait dans les médias, ou pour un homme augmenté, que pour être pris pour l'handicapé, l'invalide de guerre du village. Et donc il y a des gens, de plus en plus de patients, qui jouent de ces codes-là, de cette esthétique, de ces canons, qui demandent des prothèses ostentatoires, noires, carbone, gantées, transparents, parce que finalement, c'est une manière d'essayer d'éviter le stigmate, le label que la société impose aux gens invalides. Alors le risque, c'est que les patients amputés sont cool, mais qu'un patient avec un corset, à l'heure actuelle, c'est pas encore cool. Donc il y a aussi un risque de vitesse dans l'appropriation via la technologie. Donc il faut faire aussi attention à ça. Mais ces patients-là, au fond, ils savent à quel point eux, ils ne sont pas augmentés, mais ils aiment bien des fois un peu jouer de ça. C'est quand même plus sympa d'être pris pour un homme augmenté que pour quelqu'un en myoélectrique qui est mal réparé. Voilà, donc ma conclusion est la suivante. C'est qu'il n'y a pas vraiment, même l'homme remonté, même l'homme réparé, on n'y est pas encore. Qu'un homme augmenté, ça reste avec un homme avec des outils qui ponctuellement est un peu augmenté pour une tâche, et que la clé, c'est l'humain. Alors il y a des risques de développer, de regarder que la technique, d'oublier l'humain là-dedans, de construire une réflexion sociétale et technique sur des imaginaires, comme je l'ai montré sur la prothèse Konami, mais il faut vraiment garder à l'esprit l'importance de l'humain dans la technique. Et je finirai là-dessus, en 2016, il y a eu une compétition qui s'appelle le Cibathlon, pour les patients équipés de technologies de réparation, avec des universités. Donc une équipe, c'était un patient avec une université. Par exemple, il y a l'ETH Zurich, l'Imperial College, les meilleures universités internationales qui sont là avec des prothèses, qui ont toutes les technos que je vous ai montrées, hein, des reroutages nerveux, du retour sensoriel, etc. Celui qui a gagné, c'est un patient d'une équipe polonaise ou slovaque qui a une prothèse à câble du 19e siècle, qui n'a pas d'électronique dedans, et qui a gagné haut la main par rapport à toutes les... Il y avait le patient ostéo-intégré, parce que finalement, sa prothèse, elle marchait, il la connaissait, avec le câble. Donc c'est une prothèse où en fait vous avez un harnais, et c'est le pôle opposé qui vous fait ouvrir et fermer la pince. Vous avez le retour sensoriel, il connaît sa prothèse, il n'y a pas des ingés qui, deux jours avant, lui mettent une mise à jour qui fait que tu vas voir, c'est super, mais en fait, ça ne marche plus. Ou il a fallu rentraîner le rond bleu et le carré rouge juste avant. La prothèse est efficace. C'est avant tout la capacité de l'humain et sa capacité d'utiliser des outils qui est responsable de la performance. Et voilà, et je finirai sur la dernière image. C'est par exemple ça, c'est Manami Ito, qui est capable de jouer du violon, alors du vrai violon, sans avoir de bras, avec une prothèse qui est purement passive. Elle a juste un guide de l'archet qui est ici. Et elle, en fait, elle joue de l'épaule comme d'autres joueraient avec leurs mains. qui illustre bien la capacité assez incroyable qu'on a de s'adapter, d'utiliser des outils. Donc là, la prouesse, clairement, elle n'est pas là-dedans. Elle est dans la personne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, il reste un quart d'heure si vous avez des questions. Oui. Tout à fait. Il y a toujours un débat sur la définition du handicap, même au niveau politique, au niveau économique. Il y a une manière de voir le fait qu'être handicapé, c'est juste être pas adapté à l'environnement actuel qui a été fait pour le plus grand nombre, mais tout à fait. Tout à fait. Oui. C'est un débat qu'il y a sur l'appareillage prothétique à l'heure actuelle. Il y a deux courants qui se font, j'ai pas montré ça, mais il y a une idée dans laquelle, au lieu d'avoir une prothèse sur laquelle la personne a plus de contrôle, on va équiper l'environnement pour que, par exemple, vous avez une marque qui vend un système qui est commercialisé, c'est des petits tags RFID. Vous les placez autour de votre appartement, tous les objets, par exemple, près de votre clavier, vous avez un chip spécial. Près de votre poignée de porte, vous avez d'autres chips. Et ce qui fait que dès que la main s'approche, elle se met automatiquement dans la configuration la plus adaptée pour l'objet à saisir. Mais à l'heure actuelle, il faut voir comme on a du mal à mettre... Enfin, on est censé être en 2018. On a une loi en 2005 sur l'accessibilité du territoire. Il suffit de voir comment on est accessible pour bien se rendre compte qu'il y a, hélas, malgré tout, un intérêt pour améliorer les capacités de l'individu parce que adapter l'environnement et notre milieu, notamment urbain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ok, bah je vous remercie pour votre attention. Bah oui. Oui. C'est une très bonne question. Je ne suis pas neurophysiologiste, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que par exemple, sur le projet qu'on a sur le membre fantôme, on a vu que la mobilisation du membre fantôme, elle tend à renforcer les signaux électrophysiologiques qu'on mesure. C'est-à-dire que concrètement, les gens de mobiliser leur fantôme, d'avoir une activité via ces voies-là, a un effet physique sur l'amplitude des signaux. Et donc, tout ce qu'il y a à l'heure actuelle sur l'imagerie motrice, sur les neurones miroirs, devrait pouvoir avoir le même effet. Alors, les prouesses qui ont été faites avec des patients para, qu'on a mis dans des exosquelettes, qu'on réentraîne avec des stimulations, on enlève ces signaux-là qui sont vraiment réentraînés et qui gardent des capacités, qui récupèrent des capacités, montrent bien que la pratique permet de restaurer des voies. Sur le neurone miroir, la seule chose, en fait, j'ai participé à une étude sur l'espace péripersonnel qui est lié au neurone miroir. Et en fait... les neurones miroirs, pour vous en dire deux mots, en fait, ce sont des neurones qui s'activent quand on voit quelqu'un réaliser une tâche. C'est-à-dire que ce sont des neurones bimodaux, si je ne me trompe pas, qui sont des neurones qui sont activés par la réalisation de la tâche, du toucher, des choses comme ça, et par la visualisation de cette tâche. Et en fait, je crois qu'ils sont impliqués les circuits liés à l'imagerie motrice, c'est-à-dire le fait de voir quelqu'un faire la tâche. En fait, votre corps, votre esprit, votre système nerveux est en train de réaliser la tâche. C'est juste que l'ordre n'est pas transmis au muscle, mais toutes les voies sont mobilisées. Et des athlètes de haut niveau... Voilà, oui, des athlètes d'ailleurs s'entraînent comme ça. Ils se visualisent en train de faire la tâche et quasiment toutes les voies sont activées. C'est juste que les voies finales motrices ne le sont pas. Donc, c'est fortement possible que ce qui se passe avec les patients qui mobilisent leur membre fantôme soit du même ordre. Donc, en fait, de stimuler... l'activité du membre fantôme perdu ou pas, du moignon, parce que le moignon a une tendance aussi à fondre, de stimuler ces voies-là et tous ces mécanismes-là ne peut être que bénéfique. Parce que plus on avance d'un point de vue technologique, plus on se sert de ces résidus d'informations ou de signaux pour le lier à un dispositif robotique. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt. C'est un peu brinque-ballant, mais vraiment la neurophysiologie, ce n'est pas ma première compétence. Voilà. Oui.
Pour le signal qui est mesuré, qui permet de diriger les prothèses.
Oui.
Vous savez qu'on se dit que le muscle, ça va être très limité, a priori, puisque ça va être un signal binaire.
Alors, si.
Oui. Ouais. On va en travailler très très loin.
C'est compliqué, en fait, c'est compliqué pour la première chose qui est que la première raison, c'est qu'on ne sait pas contrôler nos muscles. On sait contrôler des mouvements. Et les muscles sont des étapes intermédiaires qui génèrent les mouvements, mais on n'est pas fait pour les contrôler. Ce qui fait qu'en fait, quand je vous dis contractez juste votre biceps, on ne sait pas le faire. Ça s'apprend, les patients apprennent, mais on ne sait pas le faire. On sait contracter notre biceps quand on contracte notre triceps pour retenir notre bras de se plier en même temps. Mais concrètement, on a un certain nombre de câblages innés qui est fait, qui rend très difficile le contrôle séparé des muscles. On a des synergies musculaires où, en fait, on est incapable d'activer un seul muscle à la fois. Donc, il y a ce premier problème qui est que dire activer que le biceps ou que le triceps, c'est pas naturel et il faut déjà s'entraîner à ça. Après, je suis d'accord avec vous que la dimensionnalité du signal, elle est quand même réduite. Sur le bras, c'est vrai qu'on en a peu, mais sur l'avant-bras, par exemple, dans l'avant-bras, on a les muscles des doigts, on a quasiment 22 muscles. Donc, normalement, on aurait quand même un grand nombre de signaux. Le problème, c'est que de l'extérieur, avec nos électrodes, vous ne mesurez pas... L'électrode, elle va mesurer presque tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mesurer précisément et à décorréler l'activité des différents muscles et faire un beau décodage. On mesure une espèce de brouhaha. Et de ce brouhaha, on ne peut pas sortir grand-chose. Donc c'est pour ça que les gens vont en invasif pour pouvoir être dans le muscle et avoir vraiment quelque chose à mesurer. Et rêverait d'être encore plus haut au niveau central, le cortical, pour arriver à mesurer des choses encore plus précises. Pour répondre à une autre information, c'est que, hélas, on n'est pas des robots avec un signal musculaire qui fait 0-1, ce serait parfait. Mais en fait, on a des potentiels d'action qui se déchargent. Et en fait, vu au niveau du muscle, ça donne un espèce de nuage de bruit, où concrètement, vous avez un peu de bruit. Et quand la personne contracte, on a des bouffées d'activation. C'est l'ensemble sommé de tous les motoneurones qui déchargent. Et on a du mal à le décoder. Et concrètement, il y a beaucoup de phénomènes de fatigue. On n'est pas des robots. Et concrètement, si vous contractez, vous maintenez, en fait, vous avez une grosse bouffée et petit à petit, elle commence à tomber. Et un des problèmes, c'est qu'à l'heure actuelle, par exemple, votre main, quand vous voulez la fermer, il faut passer un certain seuil, la prothèse dire « Oh là, c'est assez contracté, j'envoie le mouvement ». Ça fait le mouvement, mais il faut que vous contractiez tout le long jusqu'à ce qu'elle ferme bien et ensuite vous relâchez. Et si vous êtes trop fatigué, il y a un moment où votre signal, comme naturellement il tombe, il passe sous le seuil et vous êtes obligé de faire plusieurs fois pour arriver à fermer votre main. Donc concrètement, c'est un signal qui est compliqué, qu'on décode très mal et ça nous simplifierait un peu les choses s'il était binaire. Il y a un chercheur qui est très réputé, qui est à Londres, qui s'appelle Dario Farina. Il y a un chercheur qui essaie de plutôt de dire « je prends le signal un peu dégueulasse tel qu'il est, j'essaie de... Je le capte directement dans de l'IA ou autre. Il essaie de décoder, c'est-à-dire de retrouver dans ce bruit, peut-être ça voudrait dire ce motoneurone il a dit ça, ce motoneurone il a dit ça, pour peut-être procéder à un décodage un peu plus fin de ce qu'il y a derrière et pas prendre le tout comme un bruit de fond. Voilà. Oui ? À commande vocale, je crois pas. Il y a eu des tentatives qui ont été faites avec des mouvements de la langue, parce qu'en fait, pas mal de ces technologies, elles sont aussi très importantes. Plus on a de handicap, plus on a besoin de ces technologies. Il y a des gens qui sont complètement paralysés en fauteuil roulant. Il y a eu plusieurs choses qui ont été développées avec le mouvement des yeux ou des pipettes, des systèmes à pression, ils peuvent comme ça souffler. Et il y a des systèmes qui ont été faits avec les mouvements de la langue. En fait, on peut traquer de l'extérieur des mouvements de la langue et donc attribuer, comme avec la langue, on bougerait un joystick. Mais à l'heure actuelle... Je peux pas garantir. Je pense qu'il y a eu des tentatives de recherche parce qu'on a tout essayé. Mais clairement, je pense que la tentative de recherche qui a été ça, ils ont développé un truc, ils ont dû aller voir un patient, et le patient a dû dire, moi, la première chose qui m'intéresse, c'est qu'on ne me repère pas, que je sois discret, et qu'on ne me voit pas. Et donc, le côté de genre ouvre, ferme, je pense que c'est un peu antithétique avec le besoin primaire des patients, qui est d'avoir quelque chose qui, en général, les fond dans la masse. C'est un peu différent avec quelques patients qui veulent être visibles en cyborg, mais avant ça, en général, la priorité des gens, il y a des gens qui refusent des prothèses fonctionnelles, qui préfèrent avoir une prothèse très chère, qui est purement esthétique, qui est en latex, qui est fait sur mesure avec des répliques de la carnation de la peau, des implants de poils, etc., pour être vraiment le plus discret possible. Donc tout ce qui est visuel, il y a des patients, la plupart des prothèses, elles ont des bips pour signaler dans quel mode elles sont. La moitié des patients, ils refusent qu'il y ait le bip parce que c'est un moyen d'attirer l'attention sur eux. Et ils ont déjà bien assez de gens qui les regardent bizarrement parce que cette main, elle semble un peu petite par rapport à l'autre et c'est bizarre. Voilà. Mais ça a dû être fait. Il y a des choses un peu, dans le genre de trucs qui sont testés, qui sont difficiles à envisager en vrai. Il y a une prothèse américaine à beaucoup de degrés de liberté où, en fait, c'est des centrales inertielles sur les pieds qui vous permettent de piloter le bras. Donc concrètement, en fait, il faut vous mettre en équilibre sur un pied, et avec l'autre pied, vous pouvez piloter la main. C'est intéressant, mais en fait, vous sacrifiez votre capacité à vous mouvoir à ça, et donc c'est une balance qui n'est pas forcément intéressante pour ce genre d'approche. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir.